Le débat du jour. Loïc Bussière.
Alors d'accord, il y a Tintin, icône de la BD plus que de la profession qu'il est censé incarner. Et puis la presse est historiquement une terre d'accueil pour le 9e art. Mais 90 ans après la naissance du héros d'Hergé, les liens entre le journalisme et la bande dessinée vont bien au-delà de ces constats et de l'image d'Épinal du fringant reporter courant vers l'aventure de case en case. Mieux, on voit de plus en plus les deux, journalisme et BD, se croiser au point que la BD reportage est aujourd'hui un genre à part entière. On ne compte plus les enquêtes dessinées auxquelles les journalistes traditionnels et reconnus apportent leur concours. Des revues ouvrent leurs pages aux reportages mis en image. Loin, bien loin donc du cliché suranné des petits Mickey et du sens premier des comic books. À l'heure où la ville d'Angoulême célèbre la BD comme chaque année à la même époque, on s'interroge avec nos invités sur ce couple BD et reportage. La bulle est-elle l'avenir du journalisme ? J'en bafouille, c'est la question en tout cas que l'on pose dans le débat du jour.
RFI.
Avec nos invités donc Thierry Chavant et David Servenet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
David Servenet, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes cofondateur de la revue Dessinée et entre autres, j'étais à vos états de service, co-auteur avec Jacques Rénal de la 7e arme aux éditions La Découverte. Thierry Chavant, vous êtes vous auteur et dessinateur, collaborateur avec à la revue Dessinée justement donc co-créé co-fondé par David Servenet. Vous êtes co-auteur d'un livre à paraître la semaine prochaine, Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes, qui explore les liens entre l'ex-président français et le dictateur libyen. David Servenet, je me tourne vers vous pour ma première question en tant que fondateur donc de la revue Dessinée. Quel est le constat qui est à l'origine de la création de ce trimestriel?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il y a une ambition de toute une génération, en fait, d'auteurs de bandes dessinées, qui à un moment donné se reconnaissaient plus dans le système dans lequel ils évoluaient. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes auteur de bandes dessinées, en général, vous avez affaire à un interlocuteur qui est celui de, qui est votre éditeur, donc les grosses maisons d'édition de la bande dessinée, qui offrent souvent, alors, des formats qui peuvent évoluer, mais qui n'étaient pas forcément toujours adaptés à ce que les gens voulaient faire. Je m'explique. En fait, quand vous êtes auteur de bande dessinée, vous commencez souvent par faire de la fiction. Et puis, quand vous commencez à vous intéresser au réel, en fait, vous arrivez dans un cadre qui est celui de l'album un petit peu classique par son format, sa pagination, etc. Et en réalité, en fait, les auteurs de bande dessinée, quand ils ont commencé à sortir de leur atelier, donc pour faire du reportage, de l'enquête, etc., tout d'un coup, ils ont découvert qu'on pouvait avoir beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire faire des albums de 300 pages ou au contraire faire 20 pages. Et là, en créant une revue qui est donc une revue d'information mais en bande dessinée, en fait, nous on a essayé de leur offrir un espace qui correspondait à leurs envies et en se disant bah voilà, s'il faut 10 pages pour raconter une histoire, bah, on prend 10 pages, s'il en faut 50, on en prend 50 et on laisse aux auteurs le plus de liberté possible. Voilà, et je crois que ça déjà ça répondait à un besoin. Et puis après l'autre raison, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui quand on veut faire de l'information, quand on est journaliste et qu'on veut s'adresser aux jeunes générations, il faut impérativement quasiment passer par l'image, en tout cas par une forme graphique et une forme esthétique qui va parler à cette génération. Et pour ça, la bande dessinée, c'est un outil extraordinaire parce que ça emprunte à la fois à la littérature et au cinéma et avec une très grande liberté.
Thierry Chavant, vous souscrivez justement à cette espèce d'espace de liberté décrit par David Servenet. Est-ce que justement pour faire de l'information en BD, il faut une vocation pédagogique ?
Oui, c'est assez juste, même si, moi, comme beaucoup d'auteurs, je pense, je suis arrivé en ayant envie d'en faire, mais en ayant peur aussi, parce que on se dit en arrivant, oula, l'information, c'est très sérieux, c'est ce qui est le cas, mais il va falloir que je fasse vachement gaffe, faut pas dessiner n'importe quoi, faut pas montrer n'importe quoi, tout ça. Mais en vérité, une fois qu'on est sur le terrain et qu'on se saisit de l'info, en fait, c'est assez incroyable ce qu'on peut développer, en fait. Je vois pas d'ailleurs le champ BD qu'on ne peut pas utiliser pour exprimer l'info. Ça passe par toutes les expressions possibles, quoi. On fait autant des scènes que du symbolique, de l'allégorie, du schéma aussi. C'est assez marrant, mais en une planche, on peut expliquer un truc très complexe, très subtil. En fait. Non, y a, c'est tout à fait adapté. Ouais, moi, je trouve.
Alors, l'information, je vais reprendre pour le coup une référence de BD-file, celle du défunt et regretté Gottlieb. L'information, c'est une chose trop sérieuse pour la confier à des rigolos, tel qu'il aurait fait dire à Clémenceau. C'est ce que vous pensiez, vous, pour le coup?
Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est une idée qui m'avait au début j'y avais beaucoup pensé, et en fait ceux qui m'ont rassuré, c'est marrant, c'est les journalistes en fait. C'est-à-dire que dès qu'on commence à faire une BD, à mettre en scène, à faire une info dessinée, faut voir la réaction de lecteurs qu'ils ont, qui est réjoui, super content. Et en fait on se rend compte d'un truc, c'est ce que disait David à l'instant, c'est que la BD c'est un média. C'est comme tous les médias, donc il n'y a pas de frein à l'utiliser, et au contraire, c'est tout à fait adapté.
Ouais. David Servenay, vous êtes journaliste, donc vous êtes celui qui rassure une personne comme Thierry Chevant, qui est lui auteur-dessinateur. Mmh. Est-ce que justement c'est difficile de faire venir les dessinateurs à l'information ? Je pense que pour le coup, Thierry Chevant, vous venez de la fiction au départ, vous avez publié en tout cas plusieurs ouvrages de fiction. Est-ce que c'est compliqué justement d'attirer les dessinateurs vers la fiction, vers l'information ?
Oui et non. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les auteurs de bande dessinée, parmi les artistes qui vivent dans la société, sont des gens qui vont prendre des risques. Je m'explique. Quand on fait de la bande dessinée du réel, ou de reportage, ou d'enquête sur un certain nombre de thèmes, et le dernier livre de Thierry que vous citiez sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi en témoigne, c'est une manière d'aller sur le terrain politique. Et quand vous y réfléchissez aujourd'hui, il y a assez peu d'artistes qui vont vraiment sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vont jouer une forme de contre-pouvoir dans la société en exposant, encore une fois, en allant décrire la réalité, en faisant du reportage ou en faisant de l'enquête. Ça, c'est une première chose, et c'est important de le souligner parce qu'on a toujours tendance à penser que les dessinateurs, vous le disiez, c'est un peu les petits Mickey, des gens gentils, un peu aimables, un peu bisounours, mais non. En réalité, les dessinateurs, quand ils s'emparent de cette matière, ils y vont à fond, ils sont pas spécialement gentils, ils vont beaucoup s'informer, beaucoup se documenter, beaucoup réfléchir. Moi, en tant que journaliste, je me suis retrouvé confronté à des questions que je me posais jamais. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah oui, mais là, la voiture dont tu parles, c'est quel modèle, d'où elle vient, et le gars là dont tu parles, il était habillé comment, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous pousse à aller encore plus loin dans le détail, dans les faits. Donc ça, c'est une espèce d'école de la rigueur, de la précision qui est assez intéressante. Après, effectivement, il y a toute une discussion à avoir dans la collaboration avec le dessinateur, parce que par exemple, un dessinateur, il va avoir tendance à avoir recours à des techniques de la fiction pour raconter une histoire. Il va vous dire, tiens, bah là, par exemple, on pourrait inventer une espèce de un personnage imaginaire, donc qui n'existe pas, et qui jouerait le rôle du narrateur. Et ça peut se faire, mais ça peut être aussi un petit peu dangereux. Et de ce point de vue-là, justement, on peut en reparler, mais la solution qu'a trouvée Thierry dans ce dernier album, elle est hyper intéressante, parce qu'il a créé une espèce de personnage imaginaire, mais en montrant au lecteur tout de suite que ce personnage est imaginaire, qui joue le rôle du narrateur et de la petite voix en même temps, et ça permet de formidablement bien raconter une histoire sans pour autant tromper, ne pas remplir la promesse éditoriale, c'est-à-dire tromper son lecteur. Et ça c'est très important, ne pas tromper son lecteur, et parfois là effectivement il y a des contraintes auxquelles les dessinateurs doivent se plier.
Alors vous parlez du point de vue du journaliste et du dessinateur, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un appétit, un engouement justement pour cette nouvelle forme d'expression de l'information?
Oui,
je m'adresse à vous deux pour le coup.
Indéniablement. Enfin, là, on voit bien que, en plus, c'est pas simplement les journalistes qui vont collaborer avec les auteurs de bande dessinée aujourd'hui. Où il y a, par exemple, toute une collection qui s'est créée avec des jeunes thésards, des universitaires, qui mettent donc leur matière, leur savoir à disposition des auteurs de bande dessinée, qui collaborent et qui racontent des histoires sur notre époque aujourd'hui. Ouais.
Thierry Chavant.
Oui, puis c'est plus fun à lire. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais il y a ce côté, c'est du dessin, c'est sympa, et ça n'enlève rien à la rigueur du boulot. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une synthétisation, il y a de l'info qui est bien foutue, bien structurée, enfin voilà. Sauf que la manière dont, c'est du dessin, c'est immédiat, c'est ce que tu disais, David, il y a un truc vraiment marrant, quoi, quand on l'aborde, en tout cas.
Est-ce que ce constat, justement, cet appétit pour le journalisme dessiné, j'emploie cette expression un peu à la volée, il est aussi des limites du journalisme traditionnel, tel qu'on le perçoit aujourd'hui?
Alors, sans doute, parce que on se rend compte depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, qu'il y a tout un pan du métier qui évolue vers ce qu'on a appelé le slow journalism, hein, le journalisme lent, c'est-à-dire aller trouver de nouvelles formes d'expression, des nouveaux formats, et souvent des formats un petit peu longs, pour justement redonner du sens à ce ce qui nous paraît un peu éparpillé avec le montée du numérique, d'internet, on voit bien que de la communication, on voit bien qu'il y a, c'est ce que les communicants appellent le buzz qui dure 24 heures. On est dans une succession d'informations qu'on n'arrive pas à relier, et en fait on a besoin de ces longs formats, et la BD s'y prête particulièrement bien pour redonner du sens aux choses. Et à la revue dessinée, nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et puis effectivement, je crois que on peut parfaitement, nous on a fait par exemple un sujet à la revue dessinée sur les empreintes toxiques, qui est une matière super aride, vraiment, on peut dire un peu ennuyeuse et très complexe à comprendre,
pas fun justement, pour reprendre,
pas fun, c'est clair. Et par le dessin, c'est Benjamin Adam qui a dessiné la journaliste Catherine Le Gall. Ils ont fait quelque chose qui est extrêmement fluide, et là aussi j'y reviens, mais sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est une affaire qui est quand même très complexe, et je peux vous garantir qu'en 200 pages, vous comprenez tout. C'est extrêmement agréable à lire, c'est très fluide, voilà, et le résultat est vraiment à la hauteur de la promesse.
Pour justement donner un petit peu de l'eau à votre moulin, je vous soumets cette enquête qui est parue cette semaine, qui vous a pas échappé, j'en suis sûr, le baromètre Lacroix-Kantar, baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias, qui est paru hier, qui est assez catastrophique, faut bien le dire, surtout pour la télévision, hein, qui moins d'un sondé sur quatre, selon ce sondage, la considère crédible, c'est 1 sur 2 pour la radio, et dans le même temps, 67%, et c'est peut-être ça qui est intéressant, disent suivre l'actualité racontée par les médias avec intérêt. Est-ce que justement ça, c'est un argument supplémentaire pour la BD, reportage, le journalisme dessiné?
Oui, je pense qu'il y a vraiment, c'est ce qu'expliquait David, on est submergé numériquement par plein de sources d'infos. C'est plutôt une info parcellaire, rapide, tout ça. Il y a aussi la ligne éditoriale, je trouve, de la revue dessinée qui est très intéressante. Il y a une recherche d'injustice, il y a de vérité. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai rallié la rédaction là-dessus. C'était plus une envie de participer à un truc qui remettrait l'info sur de bonnes bases, quoi. Parce que je pense que le déni, enfin l'espèce de rejet qu'il y a de la part du public, il vient de là. C'est vrai qu'il y a une perte de confiance. Le travail que fait en tout cas la revue dessinée, elle va dans le sens contraire.
Ouais. David Servanet.
Oui, de manière assez modeste, hein, mais effectivement, la revue dessinée, un des projets aussi, c'était encore une fois de décortiquer un peu le sens du monde, en tout cas une forme de lecture qui permettrait aux gens de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça qu'on privilégie beaucoup les formats de l'enquête et du reportage, qui sont deux manières différentes de raconter tout ça, et avec toujours un effort de pédagogie. Moi, ça me semble toujours important de revenir à des choses un peu basiques en quelque sorte, mais qui permettent de bien comprendre là où on est. Et encore une fois, l'enquête, ça veut pas dire forcément partir sur du politico-financier très complexe à l'autre bout du monde. On peut le faire, évidemment, et c'est très intéressant, mais ça peut être aussi simplement de s'immerger dans ce qui se passe sur le trottoir en bas de chez vous. Je dis ça parce que ça aussi, par exemple, ça fait l'objet d'une enquête. On a fait une enquête sur le Sentier, le quartier du Sentier à Paris, donc qui était en bas de chez nous, mais en donnant du temps aux journalistes et aux dessinateurs qui ont travaillé dessus, encore une fois, pour s'immerger et pour traduire tout ça par le dessin. Parce que ce qui est intéressant, en fait, dans le dessin, c'est que vous donnez à voir quelque chose qui est éminemment subjectif. Les gens, quand ils voient un dessin, ils savent que c'est une vision subjective. Donc là, il n'y a pas cette espèce de prétention à l'objectivité dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Et en même temps, parce que c'est de la bande dessinée, vous pouvez effectivement rendre des situations complexes extrêmement simples et extrêmement lisibles. Et ça, c'est très important.
Alors, je voudrais revenir justement sur ce sujet de la subjectivité. C'est souvent le reproche qui est fait au journalisme, le manque d'objectivité. Vous prenez carrément le principe contraire, à savoir le tout subjectif. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal justement quand on fait du dessin d'information, Thierry Chavin?
Je pense que, je pense que le dessin, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, tout le monde sait que c'est un dessin. C'est ce que dit David. C'est contrairement à une photo ou à une séquence filmée où on va lui prêter une espèce de réalité qui ne peut pas être de la réalité. Il y a forcément un traitement, c'est un média. On revient à cette idée. Et du coup, la BD, elle a cette sincérité-là. C'est-à-dire qu'on dessine avec nos moyens, c'est très simple. Hein. Le métier que je fais, c'est le même qu'il y avait à Lascaux. On n'a pas changé. C'est des fusains, c'est du trait, il y a un peu de couleur. Voilà, donc je pense que personne n'est dupe du moyen qu'on emploie. Par contre, le contenu, il s'en trouve, il est traduit, il est vraiment transmis, je pense. J'ai l'impression qu'il y a moins d'interférences, paradoxalement, avec la BD qu'avec d'autres systèmes, la télé, par exemple. Il y a du son, il y a de l'image, il y a du mouvement, il y a du montage. Enfin, on pourrait étaler ça pendant un moment, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de recherche de la vérité, voire de l'injustice. C'est quoi la frontière pour vous entre la subjectivité et le militantisme ?
Ça, c'est une grave question. Ce que je me demande, si moi je viens pas à la revue dessinée par militantisme. C'est pas faux. Les auteurs de BD, on a tendance à être avant, je pense, on est des lecteurs. On est des lecteurs de l'info, on écoute l'info, voilà. Et c'est, comme c'est récent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont venus à la revue dessinée pour ça. Parce que tout à coup, on suivait des gens comme David que j'avais déjà lu, que j'avais déjà entendu. On arrive à travailler avec eux, c'est enfin, on se dit, on va participer à quelque chose qui cherchent à définir le monde.
Et réciproquement, moi je peux vous dire que tous les journalistes qui n'avaient pas expérimenté ce genre de collaboration adorent travailler avec des auteurs de bande dessinée, parce que ce moment où vous voyez votre matière, l'information se transformer tout d'un coup en image, en une histoire découpée comme ça, c'est extraordinaire.
C'est l'équivalent du charme du révélateur pour la photo en argentique.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis pour compléter la réponse de Thierry, c'est que moi, je dirais que la limite, c'est l'honnêteté, mais c'est quand on est journaliste, on le sait bien. Encore une fois, on a une vision subjective sur le réel et il faut l'assumer. La garantie de la qualité, c'est la garantie de l'honnêteté, c'est-à-dire de prendre en compte les faits, de travailler quand on fait de l'enquête à charge et à décharge, comme on dit, et d'essayer de traduire la manière la plus juste possible des situations dont on a à rendre compte. Voilà.
Pour conclure sur ce sujet et pour conclure cette émission qui touche à sa fin, je citerai un auteur qui vous est cher, je crois Hugo Pratt, qui disait « Il y a toujours plusieurs façons de raconter une histoire ». C'est peu ou prou la définition de l'angle en journalisme ?
Ouais, ou de la diversité des témoignages. En général, plus on a de sources, plus on a de témoins, plus une histoire est riche et juste.
Thierry Chavant.
Ouais, Hugo Pratt, qui était journaliste et dessinateur, c'est très bon choix ça. Ouais, il a je sais pas quoi dire parce que c'est un bon sujet, c'est un bon exemple. Ça, ouais.
Et que le journalisme en bande dessinée existait avant même qu'on lui ait mis une étiquette dessus, probablement.
Pour moi, oui. Ouais, il était déjà là, en gestation, chez beaucoup de gens. Après, on a eu Jo Sacco, chez nous, on a Étienne Davodo, il y en a beaucoup à citer, mais là, je pense que c'est un nouveau champ, en tout cas, qui ne va faire que se développer, là.
Un champ dont on espère qu'il donnera de la voix dans les années à venir. On n'en dira pas plus ce soir en tout cas, puisque cette émission touche à sa fin. Je vous remercie tous les deux. David Servenet, je rappelle que vous êtes donc cofondateur de la revue dessinée, que vous êtes co-auteur avec Jacques Rénal de La Septième Arme, c'est paru aux éditions de La Découverte. Thierry Chavant, vous êtes vous co-auteur, alors avec beaucoup de monde, que je ne dise pas de bêtises, Benoît Colomba, Fabrice Arfi, Michel Desprats, Elie Gaguin, peut-être que j'ai écorché son patronyme plus, Geoffrey Le Guilcher, de Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes. Vous en parlerez demain à Angoulême au festival de la BD lors d'une table ronde. L'album est à paraître la semaine prochaine, le festival de la BD d'Angoulême. Et c'est aussi à suivre, bien évidemment, dans les éditions des RFI avec notre envoyée spéciale, Sophie Torlotin. Dans la série des remerciements, également Claude Battista à la réalisation de cette émission ce soir, Déborah Lepage et Arnold Assewa pour leur aide essentielle à la préparation de ce débat, le débat du jour qui revient lundi sur Radio France Internationale avec Guillaume Nodin. Il sera question de baisse d'impôts et de services publics, sujet qui vous concerne aussi. Messieurs, tout de suite, c'est le retour de l'info sur la Radio du Monde.
RFI. RFI. C'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.